Cours de crypto, session 2, chiffrement de flux.
Qu'est-ce que c'est qu'un chiffrement de flux? En effet, le chiffrement de flux, c'est une méthode de chiffrer un texte utilisant une clé. C'est juste, on va discuter aujourd'hui des méthodes de chiffrement et on va partir dans plutôt les détails. Comment ça marche, une méthode de prendre une clé à un message et produire un message chiffré, pourquoi c'est sûr, comment on les casse, etc. On va partir dans les détails du chiffrement simple. De la plus simple idée de possible pour chiffrer un truc. Donc, ce qui est cool à propos du chiffrement de flux, c'est que la taille du texte peut être complètement arbitraire, ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour les chiffres, pour les block ciphers, les chiffrements par bloc, ce qu'on va couvrir la semaine prochaine. Et donc, ça, c'est une propriété spéciale et intéressante et valuable du chiffrement de flux. Donc, chiffrement de flux, en anglais, c'est stream cipher. Stream cipher, ça veut dire fontaine, rivière, stream. La raison que ça s'appelle comme ça, c'est parce que, par exemple, les chiffrements de flux, puisqu'on peut générer le matériel de chiffrement dynamiquement avec la génération du message, si on a un message qui se génère dynamiquement, comme par exemple, je suis en train de parler sur le téléphone, je suis en train de parler et je veux que ce que je dis, il est en train de se produire maintenant, il doit être chiffré maintenant. Donc j'ai un flux, j'ai un stream de ce que je suis en train de dire, et je dois produire du matériel de chiffrement en même temps, genre live, pour le chiffrer. Donc ça, c'est une propriété, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de fois le stream cipher, parce que ça satisfait toutes ces propriétés. Et donc c'est pour ça, en fait, que la taille du texte peut être arbitraire, parce que le texte est en train d'être généré et de s'épanouir, tout le temps, dynamiquement. Donc, c'est quoi un chiffrement symétrique? Rappel du cours dernier, on a Alice et Bob, ils veulent communiquer sur Internet. Il y a le message M que Alice veut envoyer. Il y a la clé K qu'elle utilise pour chiffrer le message. Et la fonction de chiffrement E, ce qui est une fonction de chiffrement connue, publique, tout le monde la connaît, comment elle marche. Incluant Bob, clairement. Elle fait le chiffrement E. Avec la clé K et le message M, elle obtient C, c'est le message chiffré. Elle envoie le message chiffré par Internet, disons Gmail, ça, peu importe. Et le truc, c'est que à cause de notre méthode de chiffrement, on ne peut pas avoir d'espionnage sur la ligne ou d'altération. Donc on va découvrir en fait que le chiffrement par flux ne peut pas prévenir l'altération, par contre. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, idéalement. Il y a des autres méthodes pour prévenir l'altération qu'on peut discuter. Et donc Bob, il va recevoir le truc, il va recevoir C, ils ont déjà partagé la clé K, et il obtient le message M par utiliser la fonction de déchiffrement qui est aussi connue par tout le monde, public. Constatez que dans la méthode de chiffrement symétrique, ils ont déjà partagé K, ils connaissent K déjà, ils l'ont déjà vu une autre fois, et... la fonction qu'ils utilisent sont plutôt similaires, juste réversées, le chiffrement. C'est pour ça qu'on appelle ça symétrique. La méthode de chiffrement asymétrique, c'est quand, en fait, ils n'ont pas déjà partagé une clé, et ils veulent partager une clé en clair, sans que l'adversaire puisse savoir quelle est cette clé. Donc on s'envoie du matériel, et s'il y a un adversaire ici, il ne peut toujours pas savoir quelle est la clé qu'on a obtenue à la fin. Et ça, on appelle le chiffrement asymétrique, ce qui est la deuxième partie du cours entier, je crois, à partir de session 8, peut-être. Et donc, E et ED sont juste des fonctions efficaces et inversibles pour le chiffrement. Ça, c'est le chiffrement asymétrique. Donc, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ces fonctions, E et D, mais plutôt E, ce qui va être plusieurs types de chiffrement de flux. On peut aussi avoir E comme, par exemple, la méthode de chiffrement très fameuse AES. Elle peut être E aussi. Mais AES, ce n'est pas un chiffrement de flux, c'est un block cipher, chiffrement par bloc. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'on met pour E. Donc, avant tout, je dois préciser quelque chose que je n'ai pas précisé le cours dernier, ce qui est très important. Donc, peut-être vous avez demandé pourquoi au cours dernier, toutes les opérations mathématiques que je faisais sur tes trucs étaient justement sur des numéros ou sur des numéros binaires, genre 01, 001, et pas sur des vrais messages, comme des lettres. Et en effet, Donc, les opérations mathématiques de la crypto, et plutôt toutes les opérations mathématiques presque, ne sont pas intuitives sur les lettres. C'est pas vraiment, je ne peux pas faire A plus B si A et B sont des lettres, juste pas des variables liées à quelque chose. C'est pour ça que quand on a un message dans la cryptographie qui est des lettres, on convertit chaque lettre en numéro. C'est tout ce qu'on fait. Donc, si un message chaton, c'est mon message, je peux le convertir en lettres. Et donc, pour faire ça, et ce que l'ordinateur fait, en tout cas, quand vous utilisez le chiffrement chaque jour, c'est qu'il utilise un standard qui s'appelle ASCII, American Standard pour patate machin, j'ai oublié, mais c'est juste qu'il y a un standard qui a décidé, et très arbitrairement, il n'y a pas de logique dedans, c'est juste qu'on a décidé, c'est comme ça qu'on va le faire, que C, c'est 67, on va donner à la lettre C le numéro 67, et H, c'est 72, 65, 84, 79, et N, c'est 78. Et c'est juste, il y a un code pour toutes les lettres, et c'est complètement arbitraire, mais ça nous permet, en fait, d'aller dire, donc on va faire une représentation en numéro, et puis pour qu'on fasse les opérations cryptographiques mathématiques plus efficaces et plus intuitives, on convertit de la représentation en décimale en représentation binaire. Donc 67 devient 1000011, etc. Et donc ça, tout simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas comment on est allé de là à là? Parce que je peux complètement expliquer. C'est bien. En tout cas, comme on a vu ici, on a converti les trucs en binaire. Et le binaire, souvenez-vous de la fois dernière, c'est la représentation qu'on utilise pour la fameuse opération XOR. OK, exclusive OR. Donc, si on a un message, par exemple, ça, c'est notre message, et ça, c'est notre clé, tous les deux représentés en binaire, l'opération exclusive OR, elle fait façon que si ce truc est 1, ou, et seulement ou, ce truc est 1, ça donne 1. Donc, ici, ça va donner 0 parce que les deux sont 0. Ici, ça va donner 1, puisqu'on avait un seul qui était 1. 1 encore, parce qu'un seul était 1. Ici, ça va donner 0. Ici, ça va donner... Super. Et puis... Super. Et puis... Super. Et puis... Super. OK. Le truc, il fait le truc Matrix Revolutions, encore une fois, je ne sais pas quoi faire. L'esthétique des années 95 me suit partout. Je le fouille, mais il le suit. OK, donc la raison qu'elle est importante, l'opération XOR, en fait, dans la cryptographie, elle est importante pour une raison, c'est que si j'ai une message M, qui est juste une distribution non uniforme, j'ai un message M de taille inconnue, et puis il y a des 0 et des 1 dedans, quand on la représente comme binaire, et la distribution des 0 et des 1 dans le message M n'est pas uniforme. Donc il peut avoir 99% du message et des 0, et 10% des messages et des... 1. Okay, donc c'est juste pas uniforme du tout. Mais je prends une clé qui est uniforme sur un autre espace de 0 et de 1. La clé est uniforme. Le truc, ce qui est incroyable avec XOR, c'est que le résultat, c'est du message XORé avec la clé, va aussi être uniforme. Et on a seulement besoin que la clé soit uniforme. Et que la clé soit uniforme, c'est très facile parce que nous, on contrôle ce que va être la clé. Donc, même si on contrôle ce que n'est pas le message, ce qui est plutôt la plupart des cas, on ne peut pas décider que notre message va être uniforme sur la représentation binaire. On peut juste vérifier que notre clé est uniforme. Et comme ça, on obtient un message chiffré qui est uniforme aussi. Ce qui est très important, parce que souvenez-vous que la façon qu'on a cassé la méthode de substitution, c'est justement parce que la représentation du message n'était pas distribuée uniformément. On avait plus de E dans le message que des X. Et c'est pour ça qu'on l'a cassé. Donc ça évite une attaque très importante et nous permet d'obtenir, en fait, un message chiffré qui est indistinguable de données aléatoires. Donc si on a un message chiffré de taille très large, on ne peut pas même le distinguer, puisqu'il est complètement uniforme, d'un message aléatoire comme la statique quand on tourne, quand on allume la télé, par exemple, on a du statique dedans, ça va être totalement le même truc. Et donc... En effet, c'est sur ces trucs qu'on va baser notre premier système de chiffrement qu'on va discuter aujourd'hui, qui est, on peut dire qu'il est peut-être un chiffrement par flux, mais peut-être pas vraiment. En fait, oui, on pourra dire. Donc, le masque jetable, ou c'est le mot français, apparemment, pour one-time pad. n'ai pas de commentaire, je viens du Québec, donc c'est encore pire là-bas. Mais en tout cas, on obtient le message C par chiffrer K, par utiliser les méthodes de chiffrement sur K et M. Et tout simplement, c'est juste K XOR M. OK ? On obtient C. Et puis, pour réverser le truc, on fait K XOR C, on obtient M. C'est très simple, c'est en fait extrêmement simple comme méthode de chiffrement. Et en fait, non seulement, c'est, non seulement le masque table est extrêmement simple, mais il est en fait extrêmement sûr aussi. En fait, le masque table est complètement incassable si utilisé proprement. Il est impossible de le déchiffrer s'il est utilisé proprement. Ce que, clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire pour la plupart des méthodes de chiffrement. Question 1. On te donne un message M et son chiffrement avec un masque table C. Est-il possible pour toi d'obtenir la clé de ce message? Donc, on a le message et on a son chiffrement. On a tous les deux. Est-ce qu'on peut obtenir la clé? La première réponse, c'est non, je ne peux pas obtenir la clé. La deuxième réponse, c'est oui, la clé est K, M XOR C. Ça veut dire C, en fait. Oui, la clé est K, XOR, M XOR M. Ou je peux obtenir seulement la moitié de la clé. Donc, A, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que A est la bonne réponse? B, bonne réponse. C, je vais faire une question plus difficile, vous, toujours. OK, c'est B. Super. Eh bien oui, clairement, la relation XOR existe. Donc, ultimement, les masques tables, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a de sécurité excellente dans le truc. Il est pratiquement incassable et théoriquement incassable si appliqué correctement. Il a une performance très rapide. En effet, les ordinateurs, même votre téléphone, tous les ordinateurs aujourd'hui, même votre iPod peut-être, il vient avec des instructions dans le CPU pour faire l'opération XOR. Donc, votre CPU est équipé déjà de faire l'XOR d'une façon extrêmement rapide. Donc, je pense que c'est le chiffrement le plus rapide du monde, en fait, ou un des plus rapides. Mais, en fait, ce qui est problématique, c'est que, et pour des raisons qu'on va voir plus tard, la clé ne peut pas se répéter. Donc, dans le masque table, dans le one-time pad, la clé doit être aussi longue que le message. Et ça, c'est vraiment pas pratique du tout. Parce que si j'ai un message qui est un vidéo de 1,4 GB, je dois avoir une clé de 1,4 GB qui ne se répète jamais, qui est parfaitement uniforme. Ça doit être vraiment... Et c'est bien difficile, c'est pas toujours facile de chercher une clé qui se répète pas et qui dure 1,4 GB et qui est parfaitement uniforme. Donc les nécessités de la clé sont vraiment en sorte extrêmes. Et ce n'est pas toujours qu'on peut fournir une clé pour ça. Et aussi, le truc, il a un nom très bizarre en français, et ça, c'est une très bonne raison de ne pas l'utiliser. Donc, en tout cas, comment on a défini que le masque table est un chiffrement sûr? Comment peut-on être sûr qu'il est sûr? Pour mieux phraser la question, comment peut-on avoir une définition mathématique et une confiance mathématique que c'est un truc sûr? C'est quoi sûr? Donc, pour ça, on doit définir plusieurs trucs. Par exemple, commençant avec l'attaquant, la personne qui veut casser notre chiffrement de flux. Donc, l'attaquant, on va dire que l'attaquant, il peut, on va lui donner des pouvoirs. Il peut attaquer le message chiffré. OK, c'est tout ce qu'il peut faire. Et maintenant, par exemple, connaissant qu'on a un attaqueur qui a le message chiffré, il n'a pas la clé, il n'a pas le message en clair, on doit peut-être définir des exigences de sécurité sur ce que l'attaquant ne peut pas faire. Donc, ce qu'on veut, on veut dire que si l'attaquant ne peut pas faire ça, donc notre méthode de chiffrement est sûre. OK ? Donc, allons et essayons de définir une exigence de sécurité qu'on va mettre sur notre chiffrement de flux. Donc, par exemple, on peut dire que l'attaquant ne doit pas être capable de trouver la clé. Est-ce que ça, c'est une bonne exigence de sécurité? Oui. Non. En effet, parce que si j'ai le masque de chiffrement E, K, M qui donne M, l'attaquant ne peut pas trouver la clé, mais en fait, il a le message. Donc, si ma méthode de chiffrement est juste de prendre une clé à un message et donner un message, c'est pas vraiment... ça, en fait, truc très important, si vous faites le chiffrement dans votre vie, ça, c'est pas une bonne méthode de chiffrement. Je vous le dis. Ne le précisez pas. Ce n'est pas une bonne définition. On doit avoir une définition rigoureuse, mathématique, etc. Donc, peut-être si on fait une expansion à notre définition dans le domaine du message. On dit que, est-ce que il doit trouver le message entier, et s'il ne peut pas trouver le message entier, le chiffrement est sûr. Aussi, ce n'est pas une définition complète. Donc, par exemple, si j'ai un chiffrement avec une clé qui prend la première moitié du message, la deuxième moitié du message, elle peut justement me donner la première moitié plus le chiffrement de la deuxième moitié, et ce n'est pas vraiment... un truc chiffré complet. Donc ça, peut-être, c'est des exemples un peu naïfs. Mais en tout cas, ce que j'essaie d'illustrer, c'est que le message chiffré doit ne pas révéler aucune information, okay, sur le message clair ou la clé. Donc maintenant, clairement, vous pouvez voir que le seul truc que j'ai fait ici, c'est juste que l'incertitude de définition, je l'ai juste tout pris. Et je l'ai mis sur le mot « information ». Donc, on ne sait toujours rien. On ne sait toujours pas c'est quoi « information », qu'est-ce que ça veut dire de ne pas trouver des informations sur le message. Mais en tout cas, souvenez-vous que c'est en fait pourquoi on utilise l'opération XOR. Et pourquoi le chiffrement par substitution et le chiffrement de visionnaire ont été cassés. Parce qu'en fait, le message chiffré donnait beaucoup d'informations sur le chiffrement clair. La distribution des lettres, la taille du message, c'est inévitable. La distribution des lettres, la répartition des mots, etc., etc. Et donc, ça, ce sont des informations. Et c'est pour ça qu'on utilise XOR, pour que les messages chiffrés soient uniformément distribués. Et c'est pour ça, et la raison qu'on fait ça, c'est pour éviter que les informations paraissent. Mais en tout cas, la raison que Claude Shannon est complètement fameux et tout le monde le connaît et pourquoi il est un génie, c'est parce qu'en 1949, il a inventé le domaine de l'information théorique et il a fait ça en grande partie par définir qu'est-ce que ça veut dire information sur le message d'une méthode mathématique. Donc c'est un personnage qui est égalé avec Alan Turing quelquefois. Il a contribué beaucoup aux sciences informatiques dans son temps et aujourd'hui. Donc on peut dire, par exemple, qu'on a un système de chiffrement E et D, où il y a une méthode de chiffrement, une méthode de déchiffrement, et on a un espace de clé, un espace de message, un espace de chiffrement. On peut dire que ce chiffrement, ce système est parfaitement sûr si, pour toute paire de messages, okay, donc, on choisit deux paires de messages arbitraires dans tous les messages possibles, pour toute paire de messages, tous les clés uniformes, qui sont choisis de l'espace des clés. Donc, si on a deux messages, n'importe, et une clé uniforme, la probabilité que le chiffrement avec cette clé du premier message est égal à un certain chiffrement est exactement la même que la probabilité que le chiffrement avec cette clé et le deuxième message est égal à ce chiffrement C. Et C ici, c'est le même que C ici, donc c'est toujours le même C. Donc, on veut dire seulement qu'il y a une répartition complètement parfaite. Ce que j'essaye d'illustrer, c'est que la combinaison de K et M, les résultats de cette combinaison sont répartis uniformément et parfaitement sur tout l'espace des chiffrements possibles. Il n'y a pas un chiffrement qui apparaît plus que l'autre. Il n'y a pas, par exemple, 50% des temps que je chiffre, n'importe la clé ou le message, j'obtiens un chiffrement de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Non. En fait, le chiffrement doit être reparti uniformement. La probabilité que je tombe sur un chiffrement tel est exactement la même si je tombe sur l'autre chiffrement, et c'est reparti uniformément, et chaque message a la même probabilité. Et en fait, c'est une bonne définition pour ce truc. Donc, est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ah oui, en fait, merci, j'aurais dû expliquer. K, le grand K, c'est l'espace de tous les cas possibles. OK ? Donc, ici, je dis que je suis en train de choisir d'une façon aléatoire un cas particulier, une clé particulière, uniformément de tout l'espace de cas possibles. Donc, j'ai une grande... basket. J'ai un grand panier plein de clés, et cette fonction, ça veut dire que j'ai pris une de ces clés d'une façon uniforme. Donc, je n'ai pas fait un bias sur une clé particulière. J'ai juste choisi uniformément une clé d'une façon apolitique. Je suis pas, j'ai pas des gender bias pour une clé. Je ne pense pas que cette clé est mauvaise parce qu'elle vient de l'Afrique. Juste, je prends toutes les clés comme ils sont. Et donc, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi des questions parce que parfois, en fait, je n'explique pas des trucs. Ça, c'était un truc très important, cette notation, et je ne l'ai pas expliqué. Et c'est ma faute. Donc, demandez-moi des questions. Oui. Ok. Donc, uniforme, c'est très simple. Est-ce que tu te souviens du chiffrement de substitution? Ok. Donc, le chiffrement de substitution, on a pu le casser exactement parce qu'on a constaté que dans la langue française, par exemple, les lettres les plus communes qui apparaissent dans les phrases, c'est la lettre E. Et donc, puisque si on a une phrase en français, les lettres les plus communes vont entre la lettre E. Les lettres dans cette phrase ne sont pas distribuées uniformément. Il y a des lettres qui apparaissent plus que les autres lettres. Et donc, si par exemple, tous les messages en français étaient A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et c'est comme ça qu'on parlait tout le temps, premièrement, ça sera complètement chiant, mais deuxièmement, ça sera uniforme. Et donc, ce qu'on essaie de dire, que la clé est uniforme, c'est juste que si on a une clé 01001001, le numéro de, le nombre de 1 et le nombre des 0 est égal, si on considère toute la clé. Et ça, c'est important parce que l'opération de chiffrement XOR, si on a un message, peu importe s'il est uniforme ou pas, le message peut être aucun problème. Si on a une clé uniforme, le résultat va être uniforme. Et c'est pour ça que l'opération XOR est importante dans le chiffrement des trucs. Oui.
Je reviens juste sur la petite flèche. Le R représente un symbole particulier ou ça veut dire
random? Random. Ça veut dire random, oui. OK. Si vous avez des questions, je suis là. OK. Donc, on continue. Oui. Je n'entends pas, excuse-moi.
Je veux dire, cette égalité, elle ne force pas les chiffrés à être uniformément distribués.
Oui, clairement. L'espace de chiffrement... Ah, donc tu veux dire que c'est le numéro de 0 est égal au numéro de 1, dedans pour chaque C, dans C.
Par exemple, pour là, ça n'exclut pas le chiffrement qui retourne tout le temps le même message.
Oui, en fait, mais oui, ça doit être... On est en train de mettre quelques assumptions sur
voilà.
Assumptions.
Et sa question, j'avais l'impression que c'était la seconde ligne, et pas la première. Non, je veux dire, tout à l'heure, t'as dit qu'il faut que le message, comment dire, que la distribution des chiffrés...
Donc, si on jette le message, mais le message, en fait, si on a le chiffrement K et M qui donne justement M, le résultat M ne va pas être uniforme. Dans l'espace de tous les... On est en train de penser ici qu'on a trois espaces différents et que cet espace, on obtient une distribution uniforme à la fin. Pour que ça marche, le théorème.
Parce que...
Oui, mais c'est juste que, puisque notre méthode de chiffrement dépend sur... En fait, cette condition se tient, donc ce n'est pas complètement nécessaire. Mais c'est juste parce que la distribution, la probabilité que l'événement se passe, meilleure façon de dire, puisque la distribution des chiffrements avec la clé est uniforme sur l'espace de tous les C, donc ça tient. Mais en effet, c'est pas nécessaire que cette méthode de chiffrement emploie le XOR. C'est complètement pas nécessaire. Mais c'est juste qu'on dit que ça tient uniformément sur l'espace C à cause du fait qu'il y a exactement la même probabilité pour ce message pour M0 être C que pour M1 être C avec la même clé K. Mais en tout cas, puisqu'on utilise dans le one-time pad, dans le masque de table, le XOR pour obtenir C, il se passe que ça tient, parce qu'on sait que, que c'est distribué uniformément, et donc il y a seulement une clé possible pour chaque message. Et puisque certainement, donc il y a une clé possible pour chaque message pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a une distribution uniforme, et deuxièmement, ça c'est pas suffisant comme raison. La deuxième raison, c'est simplement que la taille des clés est aussi longue que le message. Si la clé était plus courte que le message et elle se répétait, ça sera possible d'avoir la distribution, elle peut avoir deux messages clairs pour un message chiffré, etc. Pour toute sélection de deux messages. Pour toutes deux messages possibles dans tous les messages. C'est tout. Ça, c'est pour tout. En anglais, c'est for all. Est-ce que c'est bien? Ça va bien. OK. Okay. Donc, il y a plusieurs implications de la sécurité. J'ai pas connu comment traduire. J'ai dit Information Theoretic Security en anglais. Oui, ils sont de la même taille, absolument. Oui, oui. J'ai oublié de préciser, ils sont de la même taille. Donc, ce qui est bien, c'est que sachant C, on ne peut pas déterminer s'il correspond à M0 ou M1. Ça, c'est une application qu'on dérive ou autre message dans l'espace M. Donc, si on a plusieurs messages M, donc l'attaquant, par exemple, il connaît M0 et M1, et il connaît C, il ne peut pas savoir exactement si C correspond à M1 ou à M0. Donc il ne peut pas dériver une relation immédiate. Est-ce que ce C correspond à chacune de ces messages? Et même l'adversaire le plus capable, en relation avec le premier truc, n'apprend rien sur M à travers C. Et ça, c'est les implications d'avoir cette définition et si on constate qu'elle s'applique à notre méthode de chiffrement. Donc une deuxième question. On a un message M et son chiffrement avec un masque table C. Quel est le nombre de clés possibles? J'ai déjà répondu à la question parce que j'ai expliqué un truc. C'est... non. En fait, c'est B. Donc, puisque on est en train de faire un mapping. Une projection uniforme et la probabilité que KM0 soit C, exactement la même que KM1 soit C, il y a une distribution uniforme sur le reliement, la projection des messages et clés au l'espace de chiffrement, ça dit nécessairement qu'il y a seulement une clé possible, en effet. Donc ici on va avoir une lemme.
Que le masque table
comme système de chiffrement. Donc on spécifie que ce système de chiffrement, le masque table, est en fait parfaitement sûr. Et la preuve, c'est que pour tous les messages et tous les chiffrements,
la probabilité que, le chiffrement de ce message obtient le chiffrement C avec une clé K, et donc intuitivement, raisonnablement, on peut dire que en fait, cette probabilité, ça va être le nombre des clés K où le chiffrement produit C, divisé par la taille totale de toutes les clés possibles. OK ? Donc c'est juste, on prend, par exemple, si la taille de toutes les clés possibles, c'est 256, ça c'est un espace très petit, c'est plutôt 2 à la puissance 256 la plupart des temps, mais disons que c'est 256, donc la probabilité sur 1 que ça va être... Que ça va me donner C, puisqu'on a une distribution uniforme et unique, ça va être 1 sur 256, ou la taille de toutes les clés possibles, le numéro de clés possibles. Donc, sachant ça, sachant tous ces trucs, et sachant, ben oui, on a un mapping uniformément distribué, et tout va bien, il n'y a pas de répétition, et chaque message, avec son chiffrement, elle a un seul message chiffré qu'on obtient à la fin, et c'est impossible de déterminer des relations entre le message chiffré tel et le message clair tel, et deux messages chiffrés, deux messages clairs chiffrés, etc. C'est toujours pas un très bon système de chiffrement.
le chiffrement par masque jetable. Et la raison, c'était qu'en fait, si c'était un bon système de chiffrement, on aura résolu la cryptographie il y a très longtemps et personne ne sera ici et on sera en train de faire des autres trucs. Mais donc pour avoir la sécurité parfaite, la taille de l'espace de clé possible doit être égale ou supérieure, mais plutôt égale, à la taille des messages possibles. Donc le numéro de message possible ne peut pas être plus supérieur au numéro de clé possible parce qu'on doit avoir une clé pour chaque message pour avoir un mapping, une projection uniforme pour que on a seulement un message chiffré pour chaque clé, chaque message. Donc ça, c'est vraiment un problème parce que la taille des clés ne peut pas toujours être la même que la taille du message. Donc la clé doit être aussi longue que le message, ce qui est très important, la clé ne peut pas se répéter. Et on va voir pourquoi en fait, on va illustrer avec un exemple pratique comment casser le système du masque jetable si la clé se répète ou dans le message ou ici elle est pas aussi longue que le message. Ou si on utilise la même clé pour chiffrer deux messages différents, ce qui en effet, rendez-vous compte, c'est la même chose que si la clé se répétait dans le message. Donc, comment peut-on faire, sachant tous ces trucs et sachant les trucs qu'on a discutés avant, et le nom très bizarre du masque jetable, comment peut-on faire façon d'avoir un masque jetable ou un système semblable au masque jetable qui est pratique? OK? Donc, tout simplement, on peut, au lieu d'être obligé de donner une grande clé, si on a une vidéo de 1 GB, on doit obtenir une clé uniforme gigantesque de 1 GB. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la nécessité de nous-mêmes donner cette clé aléatoire par une fonction informatique. Je demande à mon ordinateur de me générer une clé pseudo-aléatoire. Donc le truc ici, c'est que je ne peux pas demander à mon ordinateur de générer une clé aléatoire. Parce que les ordinateurs ne sont pas capables des opérations aléatoires. Ils sont des machines déterministiques. Ils fonctionnent sur des instructions. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire à l'ordinateur, fais ce que tu veux, fais un truc que je ne sais pas. Les ordinateurs, ça prend des instructions et ça donne des résultats toujours. Donc, ce que je veux dire avec pseudo-aléatoire, c'est qu'on est en train d'émuler la notion de que ça soit aléatoire, spécifiquement par le fait qu'on génère un résultat qui est uniformément distribué comme un vrai message, comme un vrai résultat aléatoire. Donc, il suffit qu'on invente une fonction qui prend une petite clé de taille raisonnable, comme par exemple, moi, ma clé, ça va être 16 lettres, 16 caractères, donc on convertit ça en, donc 16 lettres, c'est 16 bytes. Si on convertit en représentation binaire, ça va être 128 bits, donc 128, 0 et 1. Disons que ça va être ma clé, ce qui est une taille raisonnable et sûre, en fait. Il suffit qu'on invente une fonction qui prend cette petite clé et qui, utilisant cette clé qu'on a déterminée, qu'il est complètement pratique, on peut s'en souvenir et tout, produit un flux entier de taille arbitraire et uniformément distribué de clés uniques, ce qui est exactement ce qu'on a besoin pour le masque jetable. Donc le masque jetable, ça prend, on doit avoir une clé aussi longue que le message, qui se répète jamais, qui est uniforme, on ne l'utilise pas deux fois, etc. Donc juste, il suffit qu'on invente une fonction qui simule ce truc. Ça va pas être complètement vraiment aléatoire, mais ça va simuler la nature aléatoire, ça va être pseudo-aléatoire, simplement par garantir qu'on ne peut pas prédire l'output de cette fonction à travers les outputs qui sont venus avant, qu'il n'y a pas un manque d'uniformité, que l'output de cette fonction toujours donne le même numéro de 0 que le numéro de 1 sur un sampling de 1 GB, par exemple, de l'output de la fonction. Si on peut faire une fonction qui prend cette petite clé et qui nous donne une grande clé qui satisfait toutes ses propriétés, donc on peut utiliser cette fonction pour obtenir la clé qu'on a besoin pour faire un masque jetable. Mais on obtient cette clé artificiellement. Donc, est-ce que je vais expliquer de plus en détail. Mais si vous avez des questions, dites-moi. OK. Donc, je vais. Mais est-ce que c'est bien? Vous suivez? Tout est bien? Très bien. OK. Donc, un petit rappel. Donc ici, on a besoin de cette fonction, non? Et un petit rappel que, en fait, dans le cours dernier, on a parlé d'une petite représentation qu'on peut utiliser pour illustrer exactement cette fonction. En effet, on appelle ça une fonction aléatoire. Donc c'est juste une fonction x qui prend v dérivé d'un u uniformément aléatoirement. C'est ça la représentation, disons. Et donc on a x qui prend notre petite clé, disons notre clé de 128 bits, de taille déterminée n, et juste donne une distribution uniforme de 0 et 1 pour l'infini. C'est comme ça qu'on écrit ça mathématiquement, c'est juste ça. Donc, pour la distribution uniforme sur U, sur U étant un univers de bits, par exemple, si ça c'était 3, U sera 0, 0, 0, 0, 1, toutes les combinaisons possibles de taille 3. Donc, la probabilité que X nous donne un 0 est exactement la même que la probabilité que X nous donne un 1 chaque fois. Et c'est pour ça que c'est uniforme. Parce que c'est juste que la probabilité que ça va sortir avec un 0, la fonction aléatoire, ça va être exactement la même qu'un 1. Et donc, si on la fait marcher pour longtemps, ça va juste donner une distribution uniforme sur, simulant l'uniformité des clés nécessaires pour faire un XOR uniforme et pour faire de façon que le one-time pad marche proprement. Donc, comme on a dit, on remplace la clé aléatoire par cette fonction qui génère des clés pseudo-aléatoires parce que c'est plus facile, parce qu'on peut l'utiliser quand on veut, on a juste besoin d'une petite clé, ça nous donne un grand flux pseudo-aléatoire qui est uniforme et qui ne se répète jamais comme la première clé. Et donc, disons, on va appeler cette fonction magique qu'on va inventer, on va l'appeler J. Okay ? Et donc, ça va être une fonction déterministe, ça veut dire que ce n'est pas une fonction quantum mechanics, c'est juste une fonction qu'on peut programmer dans un ordinateur. Elle est mathématique, déterministe, on peut la décrire, qui prend une petite clé et génère un flux pseudo-aléatoire interminable. Donc, on va le représenter comme ça, comme on a représenté les fonctions pseudo-aléatoires avant. C'est juste qu'elle prend la petite clé S dans l'univers S et elle retourne juste... En effet, je ne crois pas si N, c'est exact ici, mais ça retourne, disons, à un flux interminable qui est uniforme. Donc, et si on a ce truc, G, et on l'utilise pour faire un chiffrement de flux, donc notre méthode de chiffrement ultime, elle devient tout simplement E avec K et M. Le message M exoré, au lieu d'être exoré avec K, parce que K ici va être trop petit, probablement, pour M, on l'exore avec l'output de JK, l'output pseudo-aléatoire, qui on peut faire façon qu'il soit suffisamment la taille de M, parce qu'il peut être la taille qu'on veut, il peut être trois fois la taille de M, c'est aucun problème. Et donc, c'est comme ça qu'on a changé la représentation de notre système de chiffrement. Et vous voyez que la seule différence entre ça et le chiffrement du masque jetable, c'est au lieu d'utiliser K directement, on le met dans une fonction qui prend un petit K et je lui génère un tas d'informations. Et ce que ça génère, c'est suffisant pour faire un chiffrement sûr. Et ça, c'est le chiffrement par flux. Traditionnel, le chiffrement par flux mainstream qu'on utilise aujourd'hui, qui est sur votre ordinateur, quand vous accédez à Gmail, à votre banque, quand vous allez sur votre iPhone, votre Android, quand vous envoyez des messages, tout. Ça, c'est cette fonction. C'est comme ça qu'on la représente. Et il y a, en fait, sur tous vos ordinateurs, il y a une fonction J qui est programmée déterministiquement, qui fait exactement ce truc. Elle prend une clé, elle donne un output pseudo-aléatoire, uniforme, etc.
Mais oui. Le résultat de la fonction de K dans G, ça sera la même taille que le message est-ce que c'est forcément égal à la taille du message ou pas forcément ?
Oui. Mais c'est que la taille de G est ce qu'on veut. Le truc avec G, c'est que je peux demander à G de me donner un bit de ou 100 bits. Ou... Mais en fait, ici, on veut que ça soit la taille du message. Absolument. Oui, clairement. Mais c'est arbitraire. La liberté que ça nous donne, c'est que ça peut être d'une taille complètement arbitraire.
Mais oui, ici, c'est, ça produit, et pour toutes les autres parties de ce cours, ça va produire un output suffisamment long, la taille de message, et on le chiffre avec, oui.
Le cas de la première partie et de la deuxième sont identiques ?
Oui. Oui, oui, c'est le même cas, absolument, oui. On jette le cas dans la méthode J, et on utilise l'output de cette fonction comme la clé ultime pour faire XOR avec M. Parce que comme ça, on n'a pas besoin que K soit la même taille que M, on a juste besoin que l'output de J soit la même taille de M. Et donc, si M est un grand vidéo, si M est un disque dur, par exemple, de 256 GB, on n'a pas besoin d'une clé de 256 GB, on a juste besoin d'une petite clé et une fonction qui nous assure que l'output va toujours être imprévisible, uniforme, et les autres propriétés qu'on va discuter. Je veux dire imprévisible, façon que si on génère 10 bits de cet output J et on les jette pour un attaqueur, l'attaqueur ne peut pas prendre ces 10 bits et voir la bit qui vient après. C'est pour ça que c'est imprévisible. Mais s'il a la clé, bien sûr, il n'y a rien d'imprévisible. L'imprévisibilité, c'est que je ne peux pas prédire les prochaines outputs à travers des outputs qui sont déjà passés. Juste à travers la clé. C'est la seule façon qu'on peut prédire. Donc, un chiffrement de flux, c'est un masque de table pratique. Comme on a vu, on remplace la clé aléatoire par une clé pseudo-aléatoire. En fait, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Ah oui, j'ai déjà expliqué ça. Le déchiffrement, c'est juste le message C. Encore, au lieu d'être exoré avec K directement, on l'exore avec le même output J, ce qui va être oui. Oui, absolument. Donc, non seulement ça, J doit être partagé par tous les membres, et c'est une fonction publique. Donc, la sécurité de J ne doit pas être dépendante sur le fait de si elle est connue par des ennemis ou pas, par des adversaires. Et c'est le principe de sécurité qu'on appelle le principe de Kirchhoff. Que si une fonction de chiffrement, ou une fonction qui a une relation avec le chiffrement, est connue par l'adversaire, ça ne doit pas faire façon que le système de chiffrement devient plus faible. Et c'est pour ça que tous les J des systèmes de chiffrement de flux RC4, SALSA 20, ou tous les autres méthodes de chiffrement par bloc aussi, AES, etc., toutes ces méthodes de chiffrement sont publiées. Et en fait, il n'y a pas de secret dedans. Donc oui, J, elle est connue non seulement par Bob et Alice, mais par tout le monde.
Dans
5 bits. Ah, ça, c'est S, taille S. Non, en fait, plutôt, la taille qui est utilisée dans les logiciels aujourd'hui, c'est plutôt 128.
D'accord.
Ou 256, mais 256, c'est overkill, c'est plutôt 128. Oui, bits. Donc 16 bytes ou 30 bytes, oui. Ça ? C'est XOR, l'opération qu'on a décrite avant. OK, donc une seconde. Donc XOR... C'est tout simplement... Oui, ça. Que s'il y a seulement 1, ça donne 1. Et s'il y a... Oui, c'est juste l'opération qui donne un truc uniforme. Elle est représentée par un cercle avec un plus dedans.
Très bien.
Donc, voilà la méthode de déchiffrement. Donc, question. Est-ce qu'un chiffrement... Donc, on a vu que le one-time pad, j'ai expliqué d'une façon un peu maladroite, je crois, mais le one-time pad peut être parfaitement sûr, sous la définition de Shannon. Est-ce qu'un chiffrement de flux, pas one-time pad, un chiffrement de flux, comme on a vu, avec une fonction J, est-ce qu'il peut être parfaitement sûr de la même façon ? Donc, oui. Si J est conçu d'une manière sûre, on peut obtenir la même garantie de sécurité. Ou non, la sécurité parfaite n'existe pas. Ou oui, chaque chiffrement a une fonction qui est parfaitement sûre. Ou D, non, parce que la clé est plus courte que le message. Donc A, B, C, D.
Donc la réponse, c'est D. En effet, comme on a vu avant, c'est nécessaire pour obtenir cette garantie qu'on a un mapping, une projection qu'on appelle en mathématiques one-to-one entre la combinaison des clés et des messages à l'espace de chiffrement. Okay? Et puisque la taille de la clé est plus courte que le message, ce qu'on dépend pour la sûreté dans le chiffrement de flux, c'est en fait la nature et la qualité de la fonction pseudo-aléatoire, que l'output soit aussi long que... pas aussi long, uniforme et pseudo-aléatoire et imprévisible, mais ça ne donne pas la même garantie. Et on va voir pourquoi. Donc, les chiffrements, les fonctions pseudo-aléatoires ne peuvent pas adhérer à la définition de chiffrement parfaitement sûr. C'est une slide de ce que je viens de dire. Donc, la sécurité d'un chiffrement de flux dépend complètement sur celle de son J. Et il nous faut une nouvelle définition de sécurité, exactement parce qu'on ne peut pas vraiment décrire une preuve que l'output d'une fonction va être pseudo-aléatoire. C'est pas intuitif d'avoir une notion de ce que c'est d'être pseudo-aléatoire. Donc, si on a une fonction J, on connaît qu'elle est bien construite et tout, mais on n'est pas certain que l'output est indistinguable du vrai output aléatoire s'il est pseudo-aléatoire. Donc, la seule façon, en fait, d'être certain, il n'y a pas une façon de prouver ça, de ce que je connais, mais on peut faire des études statistiques et heuristiques. Et c'est pour ça qu'on a inventé une nouvelle définition de sécurité qui est en relation avec la sécurité sémantique, mais en tout cas. Donc, J doit être imprévisible. Donc, au lieu de jeter toutes mes définitions sur le mot information et puis dépendre sur Shannon pour m'expliquer c'est quoi information et aucune information, maintenant je jette toutes mes incertitudes de définition sur le mot imprévisible. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un J, une fonction J imprévisible ? Donc, on a une J qui prend une clé de taille S, ok, et elle va nous donner un flux complet, tout ce truc. Et ça, c'est interminable. Et c'est juste que si je connais, ou si l'adversaire connaît une partie de l'output, il connaît cette partie, il n'a pas une fonction pour prédire toute autre partie. Ce qui vient après, même si seulement c'est un bit, ce qui vient après, ce qui vient avant, il ne peut pas prédire. Et c'est plutôt une définition intuitive et simple. C'est juste imprévisible, comme tu m'as demandé avant. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est que si j'ai une partie de l'output, je ne peux rien dire, rien, absolument rien. Je n'ai aucune information à ce que va suivre. Oui.
J'ai une question.
Ben, clairement, il y a le problème, le halting problem des Turing machines. Donc, interminable, ça devient un peu pas très exact. Mais ce que j'essaie d'illustrer, c'est que pour les fonctions pratiques, on peut dépendre de cette fonction de continuer. On ne va pas, par exemple, après 20 gigabytes, arriver à un endroit où la fonction dit « Ok, moi, j'arrête, j'ai besoin d'une nouvelle clé, on doit réinitialiser. » La définition de la fonction fait, sachant que ça va continuer pour un taille de message réalistiquement arbitraire. Est-ce que tu... Ça va ? Tu n'as l'air un peu... Ah, ok. Donc, est-ce que tu peux répéter ta question ?
Ma question, c'était quand tu dis interminable, est-ce que ça veut dire que la clé elle a une taille finie ou...
La clé qu'on met dans J, donc ce truc ? Ou la clé produite par J ?
Parce que tu utilisais le mot interminable, c'est ça ?
Oui, donc à cause d'un problème bien connu dans les sciences informatiques qui s'appelle « the halting problem », le problème de termination, oui. Donc, en fait, il est théoriquement indécidable dans la science informatique si on peut déterminer si un programme arbitraire va terminer ou pas à la fin. Donc, en fait, dire interminable dans un sens théorique, c'est pas juste, c'est pas correct. Et donc, quand je dis interminable ici, je dis justement pratique. Qu'on peut dépendre sur cette fonction que si j'ai besoin d'une clé d'une taille ridicule, genre 1 terabyte, 1 petabyte, 1 zettabyte, ça va
continuer à me donner sans cesse des nouvelles bytes, des nouvelles bits, et ils vont toujours être imprévisibles si on se base aux bits qui sont venus avant ou après. C'est le mieux que je peux faire. Voilà une autre définition basée sur la probabilité discrète. J est prévisible, pas imprévisible, les mauvais J, prévisible. Si on a une fonction A, telle que si on donne A la position de l'output I dans J, donc disons que I c'est ça, si on donne cette position dans l'output à A, ça va nous donner immédiatement J avec A, mais avec la position de l'output I plus 1. Donc si on donne ça à A, ça nous donne ça. Et si on donne ça à A, ça nous donne ça. Et si on donne ça à A, ça nous donne ça. Et on peut utiliser ça pour prédire tout le reste, clairement. Donc si on a cette fonction et la probabilité que ça va nous donner le bon résultat du bit qui vient après, dans J sur K, donc si la probabilité que ça marche est 0,5 plus un epsilon non négligeable, donc 0,5 c'est moitié-moitié. Donc si c'est 0,5, c'est parfait, c'est aucun problème. C'est pas prévisible. C'est si la probabilité est 0,5, que ça va nous donner un 0, ou demi, ça va nous donner un 1. Ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais si, au-dessus de ça, il y a un epsilon qui dit, non négligeable, hein, l'epsilon, il est peut-être 0,1 ou 0,2, il est un grand epsilon, qui dit que ça devient, par exemple, la probabilité que ça va nous donner le bon résultat pour la bit qui vient après est 0,7, ce qui est désastreux. Donc voilà, on a pu deviner. Et ça, c'est comment on définit, avec la probabilité, juste qu'on écrit sur le papier, que on a un epsilon non négligeable qui fait façon que c'est plus uniforme. La moitié est devenue plus de moitié, il y a un bias, cette fonction peut en fait nous donner un résultat de ce qui vient après. Et donc maintenant, on va se concentrer sur epsilon. Comment définir epsilon ? Donc en théorie, epsilon va être une fonction, une fonction qui prend un input de probabilité et retourne un output de probabilité, mais on ne va pas se concentrer sur ça. En pratique, epsilon est juste un numéro. Okay, donc si epsilon se trouvait à être 0,1, ça va changer la probabilité que A soit correct de 0,5, ce qui est ce qu'on veut, à 0,6, ce qui est un très grand bias et qui est complètement inacceptable, et ça veut dire que J est cassé. Donc dans le monde réel, un J non négligeable, donc un J sérieux, représente à ça, correspond à ça. Un bias qui, c'est 6 sur 1 sur 2,30, ce qui peut paraître un numéro très petit, premièrement, mais en effet, ce bias est complètement non négligeable parce qu'il va se manifester sur un output de J de 1 GB et plus. Donc ça suffit que si on a un J qui est de 1 GB ou plus, immédiatement, ça va se manifester, on va avoir un bias epsilon qui se présente. Pas un bias, la fonction A va commencer à produire, elle va être plus correcte que pas correcte la plupart des temps. Donc ça, c'est un epsilon non négligeable, si 2 à la puissance 30. Un epsilon négligeable dans le monde réel, pratiquement avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est 1 divisé par 2 à la puissance 80. Et ça, 80, 2 à la puissance 80, en fait, c'est habituellement la taille des clés. Par exemple, la taille d'une clé K dans J, habituellement, elle est le nombre de possibilités, pas la taille de clé, excuse-moi, la taille de possibilités, la taille de l'espace des clés, le nombre de possibilités de clés, c'est plutôt 2 au pouvoir 80. Les systèmes plus sûrs peuvent être 2 au pouvoir 128, ce qui est le plus commun, mais 2 au pouvoir 80 marche aussi. Donc ça, c'est négligeable, considérant. Donc maintenant, on va voir un exemple d'un générateur pseudo-aléatoire simple qui est non sûr. Ne l'utilisez pas, mais je veux juste montrer un exemple à quoi ça ressemble un J, un vrai J dans le monde réel. Donc ça, on l'appelle un nom très compliqué qui ne veut rien dire, générateur linéaire congruent avec paramètres A, B et P. P, c'est un nombre prime. Donc c'est juste que le prochain I dans l'output R va être A multiplié par le I qui est venu avant dans R plus B modulo le grand nombre prime. Donc, nous, on définit A, B et P comme on veut, mais c'est juste que P doit être prime. Et ça, en fait, ça a des bonnes propriétés statistiques, le truc. Ça donne, en fait, un output uniforme, mais ce n'est pas sûr. Donc, question, quelle est la clé ici ? Pour la clé K, quand on le met dans ce J, où est-elle ? C'est quoi la clé ? Et souvenez-vous, la clé ne peut pas être P ou B ou A, parce que la fonction J est publique. Comme on a dit avant, la fonction J est connue par tout le monde, c'est le principe de Kirchhoff. Donc, où est la clé ? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, donc la clé, c'est R0. Parce qu'ici, on a commencé avec... donc, on commence avec R0, et puis ça va être... la première fois, ça va être R1 est égal à R0 fois A plus B mod P, puis R2 est égal à A fois R1 plus B mod P. Donc, la première valeur, R0, est la clé. Donc, c'est comme ça qu'on insère notre clé dans cette fonction, disons qu'on va l'appeler G. Et souvenez-vous que ces paramètres doivent être publics parce que on est en train de suivre le design principle, le principe de conception de Kirchhoff, qui dit que notre système de chiffrement doit être sûr, même si l'ennemi qu'on est, comment ça marche. Et ce qui est très important. Et donc maintenant, je crois que vous êtes très, très ravis à connaître qu'il y a une pause de 10 minutes. Après la pause, on va voir comment on casse un masque jetable, des exemples de systèmes de chiffrement de flux, comment on casse ces chiffrements de flux, et une petite définition à la fin de la sécurité sémantique. Et donc ce truc, c'est un progress bar, il y a un bloc pour chaque minute, et quand ça finit, c'est qu'il n'y a plus de minutes. Mais en tout cas, pour monitorer le temps. Mais oui, la deuxième partie, ça va être beaucoup plus discussion et pratique, il n'y a pas moi qui dis des maths tout le temps, mais voilà. Elle va durer presque 20-25 minutes, je crois, la deuxième partie.
Comment casser un masque jetable? Le système de chiffrement que je viens de dire, il est complètement incassable, même théoriquement, donc apparemment on peut le casser. En effet, on a déjà discuté un peu comment on casse un masque jetable. On n'a pas discuté pourquoi ça marche. Donc si on a un message M1 et on le chiffre avec K, donc c'est juste... en fait, ça, c'est faux. En fait, non, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas exactement intuitif. Ok. Donc, ça, en fait, je suis pas en train de représenter un masque jetable ici, je suis en train de représenter un chiffrement par flux, mais c'est plutôt la même idée. Que c'est J une clé qui change pas, donc J à K, ça va générer une longue clé, la taille du message, et je l'exore avec M1. Et si ici, pour le deuxième chiffrement, j'ai un autre message, et j'utilise la même clé, ok, la même clé K, pour les deux messages. Donc on a des messages différents, des chiffrements différents, mais la clé est la même pour les deux messages. Donc on a M1, le premier message, M2, le deuxième message, et ça va nous donner C1, le premier message chiffré, et C2, le deuxième message chiffré. Donc, qui peut deviner qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, quelle est la grande faille ici qui se produit exactement parce qu'on a utilisé la même clé deux fois? La faille est que l'exor de C1 et C2, du premier message chiffré et du deuxième message chiffré, va nous donner... Ça va nous donner M1 exor M2. Vous voyez la relation ? Oui, ok. Donc, vous pouvez penser que oui, ben, M1 XOR M2, c'est toujours pas un message. On n'a toujours pas obtenu le message. Mais en fait, si on a plusieurs, on a M1, M2, et surtout si on a M3, M4, M5, M6, M7, on peut utiliser en fait de l'analyse linguistique pour déterminer les messages séparés. Et c'est comme ça qu'on peut casser le chiffrement. C'est à cause du fait qu'on peut obtenir deux messages en clair XORés l'un à l'autre, avec deux messages chiffrés XORés l'un à l'autre, on l'XOR. Et souvenez-vous que, ici, le résultat de cette opération ne va pas être uniforme. Parce que M1 n'est pas uniforme et M2 n'est pas uniforme. Donc on obtient un XOR qui n'est pas uniforme. Et l'analyse linguistique s'applique pour des raisons très similaires. Pourquoi elle s'est appliquée au système de chiffrement, de substitution ou de visionnaire?
parce que l'output n'était pas distribué uniformément.
Oups. Sur le mauvais bouton.
OK. Donc, et ça, cette faille, en fait, elle s'est passée plusieurs fois dans le monde, dans la vie. Et maintenant, pour cette partie presque finale du cours, on va discuter beaucoup d'exemples pratiques et historiques, comment les chiffrements de flux et les masques tables ont été cassés à cause de la réutilisation des clés. Donc, premièrement, il y a le projet Venona qui a été opéré par la CIA des années 1941 à 1946. Et en fait, ils ont attrapé des agents russes qui étaient en train d'examiner, essayer d'apprendre des informations sur le projet Manhattan américain qui clairement fabriquait des bombes atomiques pour la première fois. Et donc, en fait, ce que les Russes faisaient pour générer les clés, ils n'avaient pas des ordinateurs super puissants pour générer les clés pour le masque table. La technologie n'était pas déjà là. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient des dés et jetaient les dés. Ils jetaient les dés, jusqu'à ce qu'ils aient une clé uniforme et aléatoire, aussi longue que le message original. Et en fait, vous pouvez voir que cette méthode de génération de clés, elle est efficace, elle est sûre, mais vraiment, elle est en fait sûre, même s'il est très simple. C'est juste que ça prend beaucoup de temps à faire ça, à jeter des dés jusqu'à ce qu'on a une clé aussi longue que le message. Et c'est un peu comique d'imaginer des grands agents russes, OK, on va jeter des dés jusqu'à... c'est facile, mais en tout cas. À cause de ça, les agents ont utilisé la même clé plusieurs fois parce qu'ils ont dit, on va tenter de faire ça parce que je n'ai pas le temps à jeter les dés 30 000 fois chaque jour pour chaque fois que je veux dire bonjour à l'agent en Amérique. Et donc, à cause de ça, la CIA a intercepté des millions de messages, pas des millions, je crois, mais des milliers de messages. Ils ont pu les casser à travers la réutilisation des clés. Donc ça, c'est une histoire très intéressante. Vous pouvez aller sur la page Wikipédia et prendre en plus. Mais au lieu d'une histoire simplement historique avec des humains, avec des dés, il y a aussi l'histoire avec les ordinateurs. Et pour le chiffrement cassé, où regarder autre que Windows? Parce que là, on va avoir tellement de trucs de chiffrement cassé, c'est incroyable. Donc, il y a MSPPTP, le protocole de tunneling. Donc, ce protocole, c'était avec Windows NT. C'était censé faire un tunnel chiffré entre ton ordinateur Windows et ton serveur Windows pour communiquer, je sais pas, VPN, travail, etc. Donc, voici ton laptop et voici le serveur. Et tu dois communiquer avec le serveur, tu envoies des infos, tu déchiffres avec KM, le serveur répond, tu envoies, il répond, et le serveur chiffre avec KM. Donc voilà, c'est très simple. Et on a le même K et le même M qui se répètent, qui sont réutilisés. Et à cause de ça, ça a été cassé. Donc c'est l'exemple le plus simple. De ce genre de fait. Donc, qui peut penser d'un autre exemple de chiffrement cassé très très populaire, autre que CryptoCat il y a 2 ans. Donc il y a Web. Vous connaissez Web, non?
Oui.
Donc le Web, c'est un mode de chiffrement pour protéger votre Wi-Fi. Web c'est complètement cassé, donc c'est mieux d'utiliser WPA2, mais on va examiner, il y a en fait 3 à 4 méthodes qui cassent Web de façon différente, on va les examiner aujourd'hui. Donc Web, ça protège si tu as un ordinateur, tu veux te connecter à l'internet, ça protège la communication entre toi et ton routeur pour que les gens ne puissent pas avoir une antenne qui enregistre toutes tes communications. Et ça utilise un chiffrement par flux. Donc, sur la ligne, ce qui est en train d'être transmis depuis le laptop jusqu'au routeur, on a le message M. On a ça, donc CRCM, c'est en fait très simple. c'est juste CRC, ça veut dire cyclic redundancy check. C'est juste une fonction qui nous donne une assurance sur l'intégrité de M, mais oubliez, ça c'est pour notre cours. Mais c'est juste là pour, parce que c'est une partie du protocole et je voulais l'illustrer. Donc on a le message à M, on a un truc qui vient avec M qui est immatériel. Et on a la clé, ce qui est J avec K plus P. Donc P, waouh, ils ont eu l'idée qu'on va exorer, pas seulement avec J de K, parce que J de K, ça va se répéter. Et donc pour que ça ne répète pas, on va avoir une P qu'on va mettre avec K. Et donc P, c'est un compteur qui incrémente par 1 avec chaque paquet. Donc je suis en train d'envoyer des paquets, recevoir des paquets entre moi et mon routeur. Et chaque fois que j'envoie un message ou je reçois un message, il y a P qui change, qui commence par 0 pour le premier paquet, 1 pour le deuxième paquet, 3 pour le troisième paquet. Qui peut deviner où est la faille? Non. Il y a plusieurs failles. Oui, absolument. La révolution de P est prévisible. Mais c'est pas exactement. Donc, en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas que la révolution de P est prévisible. C'est que P, le fait que P est prévisible n'est pas un problème. Parce que K est suffisamment inconnu et grand. Et P, en fait, la taille de P, c'est 24 bits. Et donc, si P est imprévisible, la révolution, le changement de P est imprévisible, c'est pas exactement le problème. C'est qu'après 2 à 24 communications, P va se répéter. Et c'est cette prévisibilité qui est le problème, exactement. Pardon ? Oui, mais si tu le fais plus grand, oui, en fait, ça pourra arrêter cette attaque, oui, si tu veux. Mais ça n'arrête pas les autres attaques qu'on va discuter. Mais en fait, oui, cette attaque, c'est juste qu'on pourra avoir fait P 64 bits. Mais en fait, le truc, c'est que quand on fait P plus grand, ça a une affectation sur K. Tu vois ? Et donc, parce que la taille maximale, à cause du chiffrement de flux particulier qu'on utilise ici, la spécification de la clé, c'est 128 bits. Okay ? Donc, si ça, c'est 24 bits, K va être 104 bits. Et si on fait ça à 64 bits, elle est connue, donc la partie inconnue de la clé va être seulement 64 bits, ce qui est petit. Donc, on connaît déjà la moitié de la clé, l'autre moitié, on peut la casser immédiatement. Presque immédiatement. 64, casser 2 à la pouvoir 64, un espace de clé aussi petit, ça prend une semaine sur mon ordinateur. C'est pas aussi grand que ça. Peut-être pas. Peut-être que ça prend une semaine pour un bon ordinateur puissant, mais spécifiquement si tu as par exemple un GPU cluster ou quelque chose, tu peux l'optimiser quelques fois. Ça dépend sur le système de chiffrement pour casser ce truc, mais c'est toujours cassable d'une manière plutôt facile. Pour comparaison, 2 à la puissance 40 a pris une journée sur mon laptop pour casser. Mais 2 à la puissance 40, c'est beaucoup moins faible que 2 à la puissance 64. Et donc, oui, et donc voilà, puisque c'est 24 bits, après 16 millions paquets, ça va se répéter, parce qu'il y a seulement 16 millions possibilités dans cette taille. Et en effet, c'est pas seulement un truc. P redevient 0 après chaque reboot de ton ordinateur. Donc tu n'as pas même besoin d'attendre que ça se répète. C'est juste quand tu éteins ton ordinateur, tu rallumes, ton driver Wi-Fi va dire « Ok, ben, P redevient 0. » Et la clé reste la même et tout reste la même. Ça se répète immédiatement. Donc chaque fois que tu rebootes ton ordinateur, tu es en train de répéter le chiffrement. Répéter la clé, répéter P. Donc c'est même pas besoin d'attendre. Et 16 millions au paquet, c'est rien en fait. Ça se passe très rapidement sur le réseau. Pardon ?
P est assez petit, quand il est additionné à la clé, il change que les bits de poids faibles, pas tout le reste de la clé. Non, ça c'est.
Mais ça c'est immatériel. C'est pas grave si ça change les bits sur la moitié, ou sur la fin, ou sur le début, plus de poids, moins de poids. C'est aucun. Parce qu'on ne prend pas K comme un numéro, on le prend comme une représentation d'information. Donc c'est pour ça que c'est immatériel. Ok, donc il y a une autre faille, en effet, qui est moins claire. Donc, par exemple, des failles dans le G utilisé, ici, qui est un système de chiffrement par flux qui s'appelle RC4, qui est maintenant très populaire parce qu'il se casse de plus en plus. Donc, des failles dans J exploitent la connexion claire entre toutes les clés utilisées. Donc, en effet, il y a une connexion très claire dans chaque clé utilisée, même si les clés sont différentes, il y a toujours des clés connexes, related keys. Le clé pour le paquet 1, ça va être K plus 1. Le clé pour le paquet 2, ça va être K plus 2. Mais regardez, K est toujours le même. Donc, on a 104 bits dans cette clé qui sont toujours les mêmes. Il y a seulement 24... il y a 104 bits qui sont toujours les mêmes qu'on ne connaît pas, et il y a 24 bits qu'on connaît. Et donc, si on veut représenter cette clé, J plus B, ça, c'est K. C'est qui est 104 bits. Ça, ce n'est pas 104 bits, clairement. Mais, et ça, c'est P, ce qui est 24. Et 128 bits en total. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploité une faille dans RC4 qui fait façon que si on a beaucoup de clés qui sont en relation, la majorité de la clé reste la même, c'est quand même, ça devient de moins en moins nécessaire que la clé se répète pour qu'on obtienne des méthodes à quoi le casser le chiffrement. Et ça, ce n'est pas une faille de la théorie de chiffrement de flux. C'est juste une faille avec RC4, ce J particulier qui n'était pas très bien conçu. Et donc, comment peut-on, par exemple, améliorer Web ? Excuse-moi ? Oui, c'est une façon, certainement, si on peut changer K à chaque fois. Ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir ça, jk plus p, on peut avoir jk p plus p. Donc juste, on utilise j sur k une première fois pour avoir une k unique chaque fois, comme tu as dit, et on prend la position de ce truc
à la position p, chaque fois.
Donc on met un truc, G-inception, je sais pas, ok, c'est pas aussi marrant, mais on utilise
J pour la première fois, pour dériver une clé différente chaque fois,
pour le J ultime. Donc on utilise la séquence d'un J préliminaire comme une distribution de K différentes pour le J original qu'on était en train d'utiliser premièrement. Et comme ça, non seulement on a le compteur, mais aussi le K original n'est jamais le même. Donc les attaques sur les clés connexes ne se passent plus. Mais en fait, la meilleure façon d'améliorer Web, c'est de ne pas utiliser Web, c'est juste utiliser WPOT. Voilà.
Et donc, une autre attaque dans les chiffrements de flux, c'est qu'il n'y a pas d'intégrité. Donc, comme on a vu quand le cours a commencé, il n'y avait. Quand on envoie un message chiffré symétriquement, on veut que le message ne soit pas lisible par l'adversaire, mais aussi qu'il ne soit pas modifié. Mais en effet, dans le chiffrement de flux normal, non seulement peut-on modifier le message chiffré, mais on peut le changer à ce qu'on veut. Et sans que ça soit détecté très facilement et très simplement.
Et donc, voici un exemple. Donc, si je connais qu'une personne envoie un message, par exemple un email, mais ils utilisent un système email très sophistiqué qui chiffre le nom des gens qui reçoivent l'email. Okay? Donc, le fait qu'on a un texte ici qui dit « de Bob », l'email a été envoyé par Bob, on a chiffré que l'email est envoyé par Bob. Donc, on va chiffrer ça. Disons que ça, c'est la représentation chiffrée. On peut, en fait, changer la représentation chiffrée pour que, quand c'est déchiffré, ça donne de Eve. Donc, un attaquant, juste en partir de deux choses. En partir qu'il a le message chiffré et qu'il connaît que ici ça dit Bob.
Donc il a vu que Bob était en train d'envoyer un message, il a obtenu le message chiffré, et il connaît que cette partie de le message dit Bob parce qu'il a vu que c'était Bob qui a envoyé le message. Donc il sait que cette partie de l'adresse du message qui est chiffrée va dire c'est un message de Bob.
Donc si je connais une partie du message clair
et j'ai le message chiffré, je peux changer cette partie comme je veux.
Façon que si j'ai Bob, ok, ça c'est la représentation en ascii, comme on a dit, on représente en numéro la représentation des lettres. Et si on a F, le mot qu'on va changer, on va aussi la présenter en numéro. Il suffit de exorer ces deux. On obtient un truc tel, 7, 25, 7. Et bien voilà. Si on exore Bob, ici, avec 7, 25, 7, on va obtenir F. Vous voyez ? C'est extrêmement simple. Et on peut utiliser cette méthode pour que, façon que tout change. On a modifié le message, on a changé à ce qu'on veut, juste par faire un XOR simple. Et maintenant, quand le message est renvoyé à la personne et elle le déchiffre, elle va obtenir que le message a été envoyé par F. Et donc, on a en fait fait une modification très très dangereuse, d'une façon très 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 simple, un message chiffré. On n'a pas pu lire le message, pas du tout. Mais on a pu le changer à une façon... clairement, si vous chiffrez vos données, vous expectez que ce truc ne soit pas possible. Et donc, dans le chiffrement, par flux, clair, normal, ce truc est complètement possible. Et la seule façon de l'éviter, c'est par utiliser des garanties d'intégrité qui sont additionnées ultérieurement au chiffrement du flux, ce qu'on va discuter dans un cours qui vient après. Donc, question 4. Peut-on prouver la sécurité d'un chiffrement de flux, pas d'un one-time pad? Oui, si J est conçu d'une manière sûre. Non, on ne peut pas prouver qu'un J a un output parfaitement et infiniment aléatoire, ou dans certains cas. Donc la réponse, en fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir une preuve. On ne peut pas avoir une définition mathématique une source de données telle, je ne sais pas, une source X ou une source égale de données donne un output de taille non déterminée et cet output est en fait vraiment aléatoire. Donc en fait, on a seulement accès aux estimations heuristiques et statistiques. Et c'est pour ça qu'on a inventé une nouvelle méthode d'avoir plus de confiance. Et c'est la notion de la sécurité sémantique. Elle nous permet, puisqu'on peut pas faire, on peut pas utiliser la méthode de Shannon, qu'on peut dire un chiffrement ne révèle aucune information, on peut pas utiliser l'application de la sécurité parfaite, ce qui est déterministique et plus sûr. On fait une définition alternative qui est basée sur des expérimentations statistiques pour obtenir plus de confiance dans le domaine mathématique qu'un J sûr est égal à un chiffrement de flux sûr. Et donc, puisque c'est un test statistique, la sécurité sémantique, elle dépend sur des expériments statistiques qu'on fait. Okay? Donc, disons ici, pour cet expériment de sécurité sémantique très simple, on va avoir deux expériments. Expériment avec paramètre qui est un 0 et un deuxième expériment avec le paramètre qui est 1. Tel que, si on a Alice, notre adversaire dans ce cas, et Bob, qui veut vérifier que le message achève la sécurité sémantique, que le système de chiffrement achève la sécurité sémantique. Donc Alice, l'adversaire, peut demander à Bob de chiffrer deux messages. Okay? Alice, l'attaquant, a le pouvoir, a le privilège, a demandé à Bob de chiffrer deux messages, et la taille des messages est la même. Et Bob va répondre honnêtement, il va dire « Ok, ben, voici le chiffrement du message avec un B que j'ai choisi. » Donc B est 0 et B est 1. Il choisit un B aléatoire pour chaque expériment qui peut être 0 ou 1. Donc, par exemple, il envoie C et C peut être le chiffrement du premier message ou le chiffrement du deuxième message. Il choisit seulement un message, il le chiffre et il le renvoie. Mais Alice ne connaît pas quel message a déchiffré. Donc, la fonction de chiffrement E est sémantiquement sûre si Alice a un avantage négligible avec lequel deviner la valeur de B, si B a été 0 et 1, en utilisant C. Donc, effectivement, si Alice m'envoie deux messages à chiffrer, je les chiffre tous les deux, mais j'envoie seulement un par réponse, Alice ne doit pas avoir un avantage probabiliste de déterminer quel message j'ai envoyé, quel message j'ai chiffré. Si Alice peut, à travers le message chiffré qu'elle a obtenu à la fin, deviner quel est le message original des deux messages qu'elle a envoyés que j'ai décidé à chiffrer et à retourner. Donc, cet avantage lui donne un avantage qui présente que E n'est pas sémantiquement sûr. Mais en effet, si pour tous les statistiques que je fais, Alice continue à m'envoyer, elle m'envoie 30 000 messages, elle m'envoie 30 000 paires de messages, et pour chaque paire, je renvoie seulement un message chiffré, un des paires, je choisis et je le chiffre. Si Alice ne peut jamais dire, avec une confiance de plus de 1,5, 50%, quel message j'ai choisi à chiffrer, à envoyer, donc le chiffrement est sémantiquement sûr. Alice n'a pas une façon à prédire une relation entre le message chiffré et le message original, ce que, en fait, est le même truc qu'on a achevé quand on a fait le masque table. On a dit dans le masque table qu'il n'y a pas de relation entre... on ne peut pas déterminer une relation entre le message chiffré et le message clair. Et ici, on essaie de s'assurer du même truc, mais c'est juste qu'on obtient ces assurances au lieu de l'obtenir d'une façon juste immédiatement claire, prouvée. On obtient ces assurances d'une manière statistique. On demande à Alice, envoie-moi 30 000 paires de messages. Je vais chiffrer une fois, chaque fois, je vais chiffrer seulement un message, je vais le retourner. Et si tu peux deviner lequel de tes deux messages, chaque fois, j'ai décidé à chiffrer, avec une bonne confiance, donc le méthode de chiffrement n'est pas sûr et n'est pas sémantiquement sûr. Et comme ça qu'on connaît. Et donc, les mathématiciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent très, très fort à trouver des nouvelles méthodes avec lesquelles obtenir plus de confiance. Quel est le message qui a été chiffré par C ? Quand il envoie au vérifieur un message, et le vérifieur retourne deux messages. Pour chaque système de chiffrement de flux, par exemple RC4 ou Salsa20, il essaye de trouver, OK, pour RC4, si je fais comme ça, je peux en fait savoir, avec plus de confiance que 50%, que en fait, s'il a retourné ce message, c'est M1 qui a été chiffré, avec une clé que je ne connais pas. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye de casser, on trouve des solutions à ce problème. Parce que c'est un problème très général. Et si on essaye de, si on commence à trouver des relations, que, OK, si je m'envoie deux messages, il m'en renvoie une réponse, et je peux déterminer avec plus de confiance que 50% que la réponse que j'ai obtenue correspond à un de mes messages, en fait, je suis en train d'établir des relations entre des messages chiffrés et des messages clairs. Je suis en train d'obtenir des informations sur des messages clairs à travers des messages chiffrés. Et c'est comme ça qu'un chiffrement commence à devenir de moins en moins faible, et de plus en plus faible et de moins en moins fiable. Donc, par exemple, RC4, il a été cassé à plusieurs coups avec des attaques similaires. Il y a aussi un système de chiffrement pas cassé, Salsa20, qui est utilisé par CryptoCat et Minilock, les logiciels que je travaille dessus. Et voici une illustration, petite partie, la partie principale du chiffrement RC4. Donc ici, on a un tableau S, et c'est juste, par exemple, on peut voir qu'il prend l'input I et J. Et I et J, c'est juste les index, la position des trucs dans S. Et à travers ça, on choisit des positions, on choisit deux positions dans le tableau S, I de S, I dans S et J dans S. On les XOR et on additionne le résultat. Et de là, on choisit un K dans S. C'est une explication très rapide, mais ben voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne RC4 pour la plupart du truc. Oui. Le tableau, il est seedé, il commence par être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à 256. 0 à 255. Et puis, il change au fur et à mesure, chaque fois, parce que je remplace des trucs dans S, j'obtiens des nouveaux I et des J, etc. RC4, il est très simple comme système de chiffrement de flux, et vous pouvez voir toute la spécification en ligne. Vous ne l'utilisez pas parce qu'il n'est pas complètement sûr, mais il est très sympa pour l'apprendre. Oui, ben, c'est une petite partie que j'ai expliquée maladroitement, mais je voulais juste illustrer un truc avant de finir. En tout cas, pour la semaine prochaine, il va y avoir, plus tard aujourd'hui ou demain, il va y avoir des devoirs en ligne et aussi des TP. Donc cette fois, il va y avoir un challenge de programmation. Je vais vous donner des messages masque jetables et vous devez les casser. Et ça prend un peu de temps, c'est pas facile. En fait, je suggère d'utiliser, de programmer vos propres logiciels à faire ça, parce que si vous programmez un logiciel à vous aider à casser les masques de table, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez utiliser des distances Hamming ou des analyses linguistiques, il y a beaucoup de trucs. Je vais mettre des astuces dans le devoir, je n'ai pas encore écrit le devoir, mais je vais le faire. Donc il y a un devoir avec des questions sans programmation pour les gens qui ne veulent pas programmer, et un devoir avec programmation, ça sera à casser les masques de table. Les devoirs seront en ligne sur le GitHub et sur le site. Maintenant, on a un site qui s'appelle CoCrypto grâce au créateur du net qui a fait le site. Ils seront en ligne ce soir ou demain matin. Et aussi, les réponses aux devoirs de la semaine dernière seront en ligne en même temps. Et oui, il y aura l'enregistrement, je pense. Et en fait, avant de finir, juste un dernier remerciement à Vache qui est venu sauver avec... En effet, quand je suis arrivé ce matin, il n'y avait pas de projecteur. Et donc, on est allé chercher un projecteur et on l'a fait avec des ficelles et tout. On a fini. Bravo, Vache. Merci, Vache. Et autre que ça, le Loop et le Hackerspace, qui est juste en dessous, juste là, vous pouvez aller le visiter. Il a beaucoup m'aider à organiser ce truc. Aussi ici, l'endroit que vous êtes ici maintenant, c'est le Jardin d'Alice, ce qui est un collectif de art et trucs et écologique. Je ne connais pas trop en fait, mais ils sont très gentils, ils me donnent l'espace pour organiser, ils m'aident beaucoup. Donc pensez-y à peut-être faire une donation au Loop ou au Jardin d'Alice ou acheter des clubs matés, je sais pas, et visiter l'endroit. Et oui, il va y avoir des devoirs et tous les matériaux seront en ligne, comme toujours. Donc, si vous avez des... Donc, full disclosure, c'est la première fois dans ma vie que j'enseigne un cours. Hein. Donc, si vous avez des suggestions, des trucs, dites-moi, envoyez-moi un mail. Et j'essaie de m'améliorer tout le temps. Autre que ça, venez la semaine prochaine, dites à vos amis, ça va être toujours gratuit, il va toujours avoir quelque chose à manger. Et je vais toujours dire des trucs ridicules tout le temps. Donc voilà.
Oui.
Oui, je l'ai enlevé. Les slides étaient beaucoup plus ridicules que ça hier. Mais j'ai senti un peu de. Ouais, ouais. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ok, ben merci beaucoup et venez nombreux la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est les chiffrements par bloc.